Alors, la première histoire se passe dans la ville de Samarie. La Samarie, c'est dans la province de Samarie, et les habitants de la Samarie, c'est des Samaritains. Et puis, Samarie, ça se trouve en Cisjordanie, près de Naplouse. C'est là que j'ai cherché mon texte. Naplouse, c'est à 50 km de Jérusalem. Et puis, ça représente, comme je disais, la Cisjordanie, c'est les territoires palestiniens qui sont disputés actuellement. Voilà où se situe notre histoire. Elle a eu lieu il y a 2000 ans. Mais avant de continuer, juste pour rappel, les Samaritains avaient bien sûr des ancêtres, plusieurs centaines d'années auparavant, et c'était, j'ai vu ça dans un texte, c'était ces ancêtres-là qui étaient autour de Jérusalem à l'époque où Benjamin nous a raconté qu'ils sont revenus à Jérusalem, les Juifs, pour construire le temple. Et puis, si vous vous souvenez, ces gens qui étaient là aux alentours sont venus vers les Juifs en disant « Mais bon, nous avons le même Dieu, nous avons un peu les mêmes valeurs, on va vous aider à faire ce temple. » Et les Juifs principaux ne sont pas tombés dans le piège, ils ont dit « Non, c'est nous qui avons reçu l'ordre de rebâtir ce temple. » Et voilà. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, j'allais dire l'évangile, ça ne s'appelle pas l'évangile, mais la parole de Dieu, c'était en Israël et que en Israël. Voilà. Je pense que dans les années qui ont suivi, les Juifs n'ont jamais tellement aimé ces gens qui étaient là autour. Peut-être à cause de cette tentation, mais ils ne se sont pas trop croisés, ils ne se sont pas trop parlé. Je crois qu'ils fournirent, ils se sont même un peu haïs, et je pense qu'ils se sont même détestés. Et que. Voilà. Et quand on pense au temps de Jésus, un jour, un homme est venu vers lui et lui a dit : c'est qui mon prochain ? Parce que Jésus l'a dit, tu aimeras ton prochain. C'est qui ? Jésus raconte l'histoire du bon samaritain, avec cette personne qui a été blessée par des brigands, qui est agonisant au bord de la route, et là des gens passent et personne ne fait attention. Et finalement c'est un samaritain, Samarie, qui voit, qui soigne ce pauvre homme, et puis qui l'amène à l'hôtel, à l'hôpital, disons comme ça. Et voilà. Et puis donc, la question, qui est mon prochain ? Nous, on se dit, bon, ben, le prochain, c'est ce pauvre gars qui est par terre. Si nous, on rencontre quelqu'un qui est malheureux, il faut aussi qu'on l'aime, etc. Mais Jésus, c'est plus subtil que ça. C'est un bon juif. Alors, comme un bon juif, quand on pose une question, il pose aussi une question. Il raconte cette histoire et il dit, de qui est le prochain de cet homme qui était blessé ? Qui est le prochain de cet homme qui a été blessé, c'est qui ? Samaritain. Mais ça n'a pas de sens, parce que finalement, ce blessé, c'est clair qu'il l'aime, ce Samaritain, il lui a sauvé la vie. Mais quand Jésus dit à la question, qui est mon prochain ? Qui est le prochain de... Eh bien, finalement, celui qui avait posé la question, il avait la réponse. Ton prochain, c'est le Samaritain que tu n'aimes pas, que tu détestes. Les Juifs détestaient, je crois, de manière globale. J'aurai d'autres preuves à vous donner. Voilà. Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité. Les premiers chrétiens ont reçu une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle partout. Mais je crois qu'ils seraient restés à Jérusalem s'il n'y avait rien eu. Et là, il y a une persécution terrible et ils ont dû quitter Jérusalem. Et ils sont partis chacun de leur côté. Et il y en a un de ses disciples, qui est allé en Samarie. Justement là où on n'aime pas aller, où on ne parle pas trop avec les gens. Mais il est allé avec son bagage. Il avait un bagage spirituel. Je pense que c'est le moment que j'ouvre ma Bible et que je vous lise cette histoire. Ça se trouve dans les Actes, bien sûr. Et ce Philippe, alors, je reprends, c'est le chapitre 8, 4. Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, Les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un peu plus loin, verset 12, « Quand ils crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » C'est le rêve pour ceux qui ont envie d'évangéliser, pour les campagnes d'évangélisation. C'est fantastique et c'est à la mesure de ce démarrage de cette église qui se fait sur les chapeaux de roue, grâce à Dieu. Et voilà qu'il y avait les principaux de l'église, les apôtres, qui étaient restés à Jérusalem. Si le gros de la masse s'était parti, eux étaient là et ont entendu qu'il se passait quelque chose à Samarie. Et là, ils sont allés voir. Et je lis au verset 15. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. On oublie l'histoire d'argent, ce n'est pas mon thème ce matin. C'est le Saint-Esprit. Mais d'abord, je vais faire une pause et dire deux choses. Je dois aller réfléchir, ces deux choses. J'aimerais dire deux choses. C'est que dans ce texte, il n'est pas écrit, ailleurs oui, mais pas ici, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont reçu l'Esprit. Et puis moi, ce n'est pas mon propos ce matin. Je ne veux pas commencer à dire, quand il y a l'Esprit, voilà ce qui se passe. Parce qu'on sait que dans nos milieux évangéliques, dans les années précédentes, des fois, du point de vue théologique, il y a eu un peu des débats, ceci, cela. Et ce n'est pas mon propos ce matin. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, il y a des fois des chrétiens qui ont dit à d'autres chrétiens, tu n'as pas l'esprit. Et puis moi, je dis, c'est délicat. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens dans ma vie, je remercie Dieu, j'ai croisé énormément de gens, pas seulement dans notre église. Et l'Esprit de Dieu agit partout, comme il le veut. Et nous qui sommes ici, pour ceux qui croient en Jésus, vous avez fait une expérience avec Dieu, vous avez aimé Dieu de tout votre cœur, et maintenant si moi je parle de ça, je ne suis pas en train de dire, nous n'avons rien compris, on va commencer quelque chose à zéro. Pas du tout. Voilà. Je pense que c'était bien de le dire. Cependant, quand on lit ça, et je ne sais pas si vous avez remarqué les chants que vous avez chantés ce matin, mais vous vous êtes drôlement engagés, mais on pourrait dire, oui, c'est comme une flamme. Une flamme, elle peut, sous une bougie, tout d'un coup, être toute petite, même plus qu'un petit lumignon. Mais Dieu n'éteint pas le lumignon. Donc, chacun de nous, on a nos expériences, mais on pourrait dire, pourquoi pas plus de toi, Seigneur. C'est ce qu'on a chanté, plus de toi, plus de l'Esprit. Et l'Esprit, on peut aussi l'attrister, c'est écrit. Hein. J'attends, pour ma part, je sais que j'ai attristé l'Esprit plusieurs fois. Mais je sais que Dieu, il a son Esprit en moi et en vous. Voilà, donc ça donne un peu une base. L'Esprit, on le compare, vous avez déjà entendu, au vent. Mais là, il faut aussi que je vous lise le texte qui va avec. C'est Jésus. Jésus, je ne vous donne pas le contexte, mais à un moment donné, il dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Si c'est le cas de toute personne qui est née de l'Esprit, c'est parce que c'est l'Esprit. C'est comme un vent. Et ceux qui me connaissent actuellement, quand je lis la Bible, j'essaie toujours de réfléchir, mais les gens, à cette époque, il y a 2000 ans, comment est-ce qu'ils comprenaient ce mot? Qu'est-ce que ça leur faisait comme écho? Parce qu'aujourd'hui, nous, en français et dans notre société, il y a beaucoup d'expressions qui ont été dénaturées. Et notamment le Saint-Esprit. Je ne dis pas dans nos milieux, je dis dans la société. Ça a été galvaudé, le mot Saint-Esprit. On s'en moque un peu. Mais il faut dire que parfois certaines images ne nous aident pas. Je voyais récemment un tableau où on voit la Pentecôte, où l'Esprit descend sur les apôtres, il y a des petites flammes qui sont dessinées, puis il y a une auréole immense, puis ces gens-là, je ne sais plus s'ils joignent les mains, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, bien sûr, ça fait référence à un vrai événement, mais c'est pas comme ça que je ressens la chose. Et donc, je vais régulièrement gratter dans la Bible grâce au smartphone, grâce aux applications fabuleuses par rapport à la Bible. Et je prends ce verset ici, le vent souffle, et puis je me dis, je vais voir qu'est-ce que le vent. Et je pose mon doigt sur le terme le vent. Alors normalement, quand j'ai mon verset biblique, je presse sur le mot qui m'intéresse, automatiquement il vient en surbrillance, et puis il y a le mot en dessous. Mais curieusement, quand je presse le vent sur ce verset, il y a aussi le mot esprit qui vient, j'allais dire, je pourrais vous le montrer. Je presse le vent, mais c'est aussi esprit. Et ça fait référence à un mot grec, pneuma. Pneuma, on sait qu'en français, c'est la chance d'être du français, c'est d'être assez, enfin pas assez proche, mais quand même un petit peu proche du grec. Pneumatique, pneumonie, pneu, enfin il y a une histoire de vent. Et effectivement, c'est le vent. Mais ce qui m'a surpris, ou que je savais, mais que je n'ai pas fait la relation, le mot esprit, c'est le même mot. C'est vent aussi. C'est pneuma, il n'y a pas un autre mot. Nous, en français, on a deux mots. Alors, donc, les gens à cette époque, voilà comment est-ce qu'ils voyaient la chose. On parle du Saint-Esprit, on pourrait dire c'est l'Esprit, c'est le vent de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le vent de Dieu. On ne sait d'où il vient, où il va, et ça, c'est une caractéristique de cela. Mais on sait que c'est en grec, la Bible. Je me suis dit, mais je vais quand même aller voir aussi un peu en hébreu. En hébreu, un des textes les plus fabuleux par rapport à l'Esprit, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est dans Ézéchiel 37. C'est un prophète, Ézéchiel. Dans une vision, il voit un tas d'os humains. Et à un moment donné, dans cette vision, ces os humains retrouvent leur chair, les nerfs, la peau. Mais c'est toujours des cadavres. Ici, je ne veux pas jeter un froid, mais je pense que ce n'est pas faux. Si vous avez des images de la Shoah, et des monceaux de cadavres. C'est bien qu'on l'ait vu une fois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Hein. Voilà, et bien c'est ça qu'il a eu comme vision. Et puis l'Esprit, ou Dieu, dit à cet Ézéchiel, prononce ces paroles, « Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, sur ces cadavres, et qu'ils revivent. » Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Plus loin, il est aussi dit, je vais ouvrir vos tombes, je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. La Shoah, 1942, Israël, 1947. Mais c'est pas... Ce matin, c'est pourquoi je lis ça, c'est par rapport au mot esprit. Je vais sur ce verset, esprit vient des quatre vents, etc., le verset 9. Je clique, esprit, il y a tout qui s'illumine, vent, esprit qui vient, parce que c'est un mot, c'est rouar. Rouar, c'est le vent. L'esprit, c'est aussi rouar, c'est le même mot, donc on a une concordance. Et puis, je ne vais peut-être pas trop compliquer, mais je vous le dis quand même. Il y a aussi un autre verset de Jésus, un jour, enfin, qui dit, je ne donne pas non plus le contexte, mais vous l'avez peut-être déjà lu, Jésus souffle sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus souffle. J'ai aussi vu le terme grec que je ne vous dis pas, mais je vous dis que l'Ancien Testament entièrement, qui est en hébreu, a été traduit une fois en grec par des juifs. Et ce mot ici, Jésus souffle, il n'est qu'une fois dans le Nouveau Testament. Mais dans la traduction grecque, il est aussi repris la première fois dans la Genèse, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, et qu'il a reçu la vie. Et donc, ce n'est pas un hasard. C'est ce que Dieu a fait, Jésus le refait encore une fois. Parce que tout a été cassé après dans la création et on voit que Jésus souffle et il souffle l'esprit. Voilà, ça c'est, j'allais dire, fin de la première histoire. Je vous ai dit que je racontais des histoires, maintenant c'était une histoire un peu développée. Hein. Je veux maintenant vous raconter encore quelques petites histoires un peu plus courtes. Hein. La seconde, ça se passe en 1700. Vous allez me dire, oh, mais il y a longtemps. Oui, d'accord, mais enfin, il y a 2000 ans, l'autre, elle était vraiment beaucoup plus vieille. Donc, on est déjà beaucoup plus proche d'aujourd'hui. En l'an 1700, c'est en Allemagne, dans un petit village que nous ne connaissons pas, hein, qui s'appelle Erfurt, et qui se trouve au centre de l'Allemagne, à l'est. C'est tout près de la Pologne et tout près de la Tchécoslovaquie. Et là, il y a un enfant qui naît, qui s'appelle Nicolas, un petit bébé. Et puis Nicolas grandit, il a la chance de naître dans une famille riche, très riche. Et il est précoce aussi, à 6 ans, il sait déjà lire. Et il lit quoi ? La Bible. Il faut se dire qu'à cette époque-là, il y avait eu Luther, quelques années auparavant, qu'il avait traduit la Bible en allemand et qu'elle était imprimée, mais c'était seulement les riches qui pouvaient l'avoir. Et dans cette famille, il y avait une Bible. Et cet enfant Nicolas lisait cette Bible. Et à ce moment-là, parce qu'en Europe, il ne faut pas croire que tout était beau, ce n'était pas l'Europe unie, c'était l'Europe désunie, beaucoup de guerres. Et à ce moment-là, il y a des soldats qui sont là par les circonstances, des soldats suédois qui viennent pour saccager le village et saccager la maison où se trouve Nicolas. Et ils entrent dans cette maison, ces soldats, avec de mauvaises intentions, et ils voient cet enfant qui lit la Bible. Il réalise que c'est une Bible, il réalise bien sûr que c'est un enfant, et tout en coup, un de ses soldats dit non, une maison où un enfant lit la Bible, on ne peut pas la saccager. Et il a été, j'entends, ils ont été épargnés. Cet enfant est devenu grand, et il a hérité toute cette richesse. Mais il n'a pas seulement hérité la richesse, il a hérité les titres de noblesse. Parce que c'était un noble, c'était un comte. Et ce comte, il s'appelle le comte de Zinzendorf. Et le comte de Zinzendorf, qui était un, on va dire, un vrai chrétien, il a accueilli des réfugiés. Et ces réfugiés venaient un peu en dessous, au sud de la Tchécoslovaquie, d'une région qui s'appelle la Moravie. C'était des Moraves. Et ces Moraves étaient là, dans ce village, en fait. Et il y avait aussi une église luthérienne, et il y avait toute une vie avec ces réfugiés Moraves, qui étaient des réfugiés en raison de leur foi aussi. Et là, un jour, ils se sont retrouvés pour discuter des problèmes relationnels. J'ai noté quelques expressions, mais je vous dirai où je l'ai pris. Pour discuter leurs problèmes relationnels. Et voilà que pendant ce moment où ils discutent de leurs problèmes, là, je n'ai pas le détail. C'est une histoire que je connais d'avant, hein, mais que j'ai aussi lue, mais je n'ai pas tous les détails. Ils étaient là, et tout d'un coup, ils réalisent l'amour de Dieu dans leur cœur. Et ils se mettent à chanter, à louer, et ils partent en prière, et ça devient une réunion de prière. Très animée, je pense bruyante aussi. Et voilà qu'ils prient toute la nuit. Ce n'était pas prévu, ils prient toute la nuit. Et le matin, ben, ils continuent de prier, ils prient toute la journée suivante. Et le soir, ils n'arrêtent pas, ils continuent. Toute la nuit. Je pense bien qu'il y a des gens peut-être qui sont allés dormir un petit coup, parce que ça continuait. Et le jour suivant, la nuit suivante, un jour, deux jours, cinq jours, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, continue, quatre mois, six mois, une année, un siècle. Une réunion de prière qui a duré un siècle. Vous irez peut-être le vérifier parce qu'on se pince pour savoir si c'est vrai. J'entends, dans le sens d'une chaîne de prière, bien sûr sur plusieurs générations, parce qu'on ne vit pas un siècle. Et puis ces premiers qui ont vécu cette prière, qui ont ressenti ce feu dans leur cœur, ils ne tenaient plus en place. Ils sont partis aux États-Unis, en Afrique, au Proche-Orient, en Extrême-Orient. Et ils ont annoncé la parole de Dieu, ils ont traduit la Bible, Wycliffe n'existait pas, et ça a été un fondement pour tous les mouvements évangéliques. C'est moi ce que je pense, nous sommes ici à cause de cette prière. Et voilà. Ça, cette histoire, je l'ai. Quand j'ai cherché, j'ai retrouvé une petite vidéo d'Olivier Fleury, je pense que c'est Jeunesse en Mission, qui fait la promotion du livre dans la collection Les héros de la foi. Je n'ai pas eu le temps, si j'avais plus de temps, où j'aurais été prendre le bouquin. Il existe. Donc, sur ses frères moraves. Et peut-être que ce serait bien d'aller une fois le lire et puis un peu de. Pas seulement de contrôler, mais de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé de phénoménal. Voilà. Je raconte encore une histoire, une autre, si ça va. De toute façon, il faut hein, que ça. Ouais, je sais pas, je regarde là, mais il est qu'à 10, hein, ça va. Alors, cette autre histoire, alors ça se passe au Congo. Est-ce que je dois vous expliquer où est le Congo, ça va? Non. Le Congo, c'est un pays qu'on aime bien, on est tous un peu congolais, ça vous le savez. Hein? Oui, oui, mais. Et c'est aussi une histoire d'un jeune. Mais il est quand même un peu plus âgé, il a 13 ans. Alors on ne va pas dire que c'est un enfant, mais il a 13 ans. C'est un fils de pasteur. Et il aime beaucoup le football. Et de temps en temps, il y a des matchs de foot, puis il y a aussi la réunion. Son cœur est tiraillé, c'est-à-dire son cœur, il penche plutôt foot. Bref, un enfant normal, vous êtes d'accord. Hein? Et voilà qu'il se trouve dans une rencontre, je pense, de prière, et tout d'un coup, il sent l'amour de Dieu dans son cœur, mais d'une force. Hein? Et il se met à pleurer, il dit, il y a une réaction en moi. On ne peut pas s'imaginer. Et il a pleuré, pleuré, pleuré. Mais il n'était pas triste, il était dans une joie, dans une joie, dans une joie. Et il dit, là j'ai aussi vu son témoignage, hein, j'étais dans une joie que je ne peux pas expliquer. L'esprit s'empara de moi. Lorsque vous expérimentez cet amour, c'est lui qui le dit, profond de Dieu envers vous, et que vous manquez sur le plan du langage de pouvoir expliquer ce qui vous arrive. Bref, il est comme il dit, j'étais tout à fait hors de moi. Cet enfant a changé à 13 ans. Vous savez de qui je parle? Vous le connaissez? Non? Ben, je vais vous donner un indice, il s'appelle Denis. Vous le connaissez? Ça vous aide pas? Non? Ben, je vous donne encore un indice, je vous donne son nom de famille. Mais là, je dois le lire, parce que ce n'est pas aussi simple que Denis. Mukwege. Maintenant, vous savez qui c'est? Prix Nobel de la paix 2018. Cet homme qui a reçu cet amour, qui a eu une formation de docteur, qui est allé, donc docteur gynécologue, obstétricien, chirurgien, qui est allé opérer des femmes qui ont été mutilées pour leur redonner la dignité. Ça, c'est ce docteur. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il dit depuis l'âge de 13 ans, et il le dit maintenant, hein, depuis j'ai une conviction que tout ce que je le fais pour la gloire de celui qui me donne cette grâce de le connaître. Mon thème principal, c'est l'amour. Je me sens tout le temps dans les mains sûres de Dieu, une expérience transformative qui vous permet de voir l'autre à l'image de Dieu. Ça, c'est son expérience. À cet homme. Et là aussi, c'est sur une vidéo que j'ai retrouvé ce témoignage. Il est interviewé par Serge Carrel, qui est le journaliste, j'allais dire bien connu, mais évangélique. Et puis c'est sur la chaîne Frey TV. Voilà. Donc, allez recontrôler. Et c'est aussi la promotion de son livre, en fait, parce qu'il a écrit un livre. Hein. Je crois que quand il a été interviewé, c'était en 2017. Peut-être que le prix Nobel, il ne l'avait pas encore. Voilà, je raconte encore une histoire. Cette histoire, c'est en consultant le site de l'église évangélique de Réveil de Bienne. Vous connaissez, moi de temps en temps, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au programme. Et puis récemment, je regarde de nouveau l'historique que je connais, mais je lis l'historique de notre église et je vois tout à la fin qu'il est mentionné un document du pasteur Hunziker écrit en 1985, « Souviens-toi ». Et moi, j'aime bien les histoires, j'aime bien l'histoire aussi. Ah, ça, j'ai envie de le lire. Tiens, je ne connais pas. Et Google, où c'est que je pourrais commander ce livre? Et en une, deux, je tombe sur le document PDF que j'ai pu télécharger, puis que j'avais, puis que j'ai imprimé. Donc, j'ai eu directement ce que je voulais. Ça s'intitule « Souviens-toi, la Bible et les trois réveils à Genève ». Peut-être que je vois maintenant ce mot réveil et puis je dis quelque chose réveil. Si vous voulez, ça veut dire peut-être qu'on était éveillé, puis après on l'est un peu moins, puis on se réveille dans le R, c'est-à-dire de nouveau. Hein? Et peut-être ça va un peu aussi avec ce que je voulais dire au tout début, l'esprit a été donné, et donc on n'est pas là pour contester nos expériences, puis je ne sais pas quoi, raconter comme théorie, mais plutôt dire, mais on pourrait se réveiller. Dans le sens positif, sans être culpabilisé, rien du tout. Et là, ça s'appelle Les Trois Réveils à Genève. Et là, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires qu'elle a dedans, mais on voit qu'à Genève, il y a eu plusieurs réveils, dont le réveil qui a fait que les églises, moi je dirais les églises libres, et ce qui a donné entre autres aussi la Fré, c'est aussi suite à un réveil. Et puis, le dernier, le troisième de ces réveils, je bois un petit coup d'eau pour ma gorge, je suis un peu sec, excusez. En fait, ça fait référence au Pays de Galles. Pays de Galles, c'est Grande-Bretagne, c'est juste à côté de l'Angleterre, mais enfin, c'est un peu la même chose, hein. Et puis, là, il y a une date très précise, c'est le 13 novembre 1904. Le 13 novembre 1904, dans une ville qui s'appelle Aberdare, que je ne connais pas, il y a une grande rencontre suite à une semaine de réunion, de grandes réunions. Les chrétiens se sont réunis, il y avait 1000 personnes, donc c'est quand même impressionnant. Et là, on va conclure, c'est terminé. Et là, je lis les mots, hein, parce que je ne vais pas vous dire. Voilà. À ce moment, on se souvint de cette date. Pourquoi? Comme du jour où le feu descendit. Ce feu d'amour pour Jésus et pour les perdus se répandit de proche en proche. Il faut le souligner surtout grâce aux actions et aux témoignages des jeunes. Car si le réveil du Pays de Galles, c'est comme ça qu'on l'appelle, le réveil du Pays de Galles, un événement historique, fut un réveil de prière, de louange, de chant et de démonstration du Saint-Esprit. Il dit que ce sont essentiellement des jeunes de 16 à 25 ans qui en furent les porteurs et les propagateurs. Hein. Alors, écoutez bien, ils étaient 1000. 2 ans après, ils sont 100 000. Pas 100 000 personnes qui... Oh, c'est 100 000 fire. En 2 ans, au Pays de Galles. Il y a eu un problème, parce qu'il y a eu plusieurs faillites à cette époque-là. C'est les pubs où on allait faire la fête et boire beaucoup d'alcool. Ils ont fait faillite, beaucoup. Et puis même un juge, je ne sais pas s'il s'est plaint. Mais enfin, il n'avait plus personne à juger à un moment donné. Il y a des petits larcins, ces trucs. C'est des faits historiques. Hein. Et puis, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça, mais un pasteur ici à Neuchâtel, pasteur protestant, qui s'appelle Fritz de Rougemont, il a entendu ces histoires bizarres. Et il a été curieux, il a fait le voyage, il est allé au Pays de Galles, et il a été subjugué quand il a vu. Ça. Et puis il a fait la rencontre d'un des prédicateurs qui s'appelle Jeffries, et puis il l'a invité. Et ils sont venus à Genève, et à Genève, j'allais dire rebelote, c'est peut-être pas tout à fait, mais l'esprit est descendu, les gens ont été renouvelés, et c'était au sein de l'Église protestante. Mais certainement beaucoup de gens sont venus. Et il est venu. Sauf erreur encore une fois ou l'autre, en Suisse, et il est venu où? À Bienne. À Bienne, ou à l'église protestante. Différents locaux, mais à un moment donné, ils ont été à l'église du Pascard. Et donc, à la sortie, vous pouvez aller voir, il y a une petite photo. C'est les gens qui sont allés dans cette église du Pascard, 1930, hein, pour redonner maintenant les années, il y a quand même des années qui se sont passées. Et vous voyez tous ces gens qui sont là pour une photo. On n'avait pas des smartphones, donc une photo, on posait, et on faisait une photo. Et là, il y a tout un monde. Et il y a eu aussi, appelons-le ça, un réveil à Bienne. Marie-Lie Richard, qui était qui est assise en son temps derrière, qui était maintenant qui est décédée, qui est auprès du Seigneur, elle racontait que dans ces années-là, à Bienne, le laitier, quand il allait livrer son lait, il n'y avait pas encore des voitures, autant, il allait livrer son lait avec sa charrette, sa bicyclette aussi, je crois, et il sifflait des cantiques. Mais il n'était pas chrétien. Seulement, c'était tellement puissant, cette action de l'esprit, que les chants, ces mélodies, elles transperçaient, et ça devenait des chansons qui étaient chantées un peu par tout le monde. Voilà. Pour ça. Et puis, donc, si je prends Bienne, mais c'est la même chose à Genève, à un moment donné, les chrétiens qui se sont retrouvés toutes les semaines pour perpétuer, continuer, après, tout coup, il y en a qui ont dit, oui, mais écoutez, on va faire aussi des cultes le dimanche matin. Parce que normalement, le culte était à l'église protestante et tout, mais là, ils n'étaient pas trop à l'aise. Et voilà. Puis il y en a qui ont dit, mais non, on continue, on fait nos réunions de semaine. Et là, on ne peut pas parler de scission, mais je pense qu'ils se sont séparés tout en ayant des bons contacts quand même entre eux. Et puis, là, c'était plus peut-être une immense église, mais une petite église de réveil à Bienne. Et nous sommes issus de ce réveil-là. C'est nous, ces années. Alors, voilà, ça, c'est les années 30. Et puis, je raconte une dernière histoire. OK. Ça se passe ici à Bienne, alors là, c'est en 1970. Donc, 70, bah, cette fois, ça vient un peu plus proche. Hein. Et puis, ça concerne non pas l'église du Pascard, mais l'école du Pascard. C'est-à-dire, maintenant, il y a les écluses, pour ceux qui connaissent peut-être ici à Bienne. C'était après le déménagement, mais au départ, c'était l'école du Pascard. Et en 1970, le 10 et le 11 décembre, il y a eu une soirée de parents, enfin une soirée où on fait du spectacle, des choses comme ça, et ça a eu lieu à la salle Saint-Paul, qui avait été louée. Et là, les élèves ont eu l'idée de faire un petit journal et de le vendre, peut-être pour la course d'école. Et puis, plusieurs élèves ont fait un petit article, et ça s'appelait Contraste, ce petit fascicule. Et là-dedans, il y a un article qui s'appelle « Qui cherche, trouve ». Et puis maintenant, je vous lis. « Dernièrement, j'ai assisté à un groupement de jeunes qui hurlaient de joie, qui prophétisaient. » Donc, c'est un journal que n'importe qui a acheté, hein. Dernièrement, j'assistais à un groupement de jeunes qui hurlaient de joie, qui prophétisaient, c'est-à-dire qui dévoilaient les secrets des cœurs de certaines personnes présentes dans la chambre, qui parlaient en des langues inconnues et qui avaient des visions au sujet de l'avenir. Je savais que ces jeunes louaient Jésus-Christ, étant persuadé alors que c'était lui, le Créateur et le Sauveur du monde, je lui demandais de me donner cette paix, cette joie et ce bonheur qui baignait ses amis qui m'entouraient. Instantanément, je fus saisi par sa puissance et reçus intérieurement toutes ces satisfactions spirituelles que le monde cherche et ne trouve pas. 1970. C'est moi qui ai signé ça. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Je rappelle quand même juste les faits. On était à la montagne en juillet 1970. On était quatre jeunes de cette église de réveil, qui étaient deux garçons, deux filles. Et moi, j'étais mal luné, j'étais en révolte, j'avais 16 ans. Et les parents, encore à cette époque, avaient un petit peu d'influence, et je ne vais pas dire m'ont obligé, mais presque, à aller à ce camp. Et ils ont préavisé le pasteur qu'avec Jean-Paul, il fallait être un petit peu prudent. Mais c'était sympa, parce qu'on n'était que 20, on était des jeunes, entre 16 et 18 ans, je dirais. Il y avait deux jeunes pasteurs, on était à la montagne. Ces pasteurs étaient chouettes, quand le matin, ils nous amenaient le café au lit, c'était une ambiance qui n'était pas militaire. Alors ça me convenait. Et voilà que ça commençait le samedi, et le dimanche, arrive une voiture avec des parents et un jeune enfant, il avait 15 ans. Il était maigre comme un clou, il était maladif, on l'appelait Moustique. Et ce Moustique, Moustique, le gars, c'est un surnom, mais c'était un... Et voilà que ce garçon, le soir, on a une réunion normale, on finit par la prière, un peu comme le docteur là, de Denis, le Congolais. Il part dans, je ne sais plus, dans la louange, il est là, il déborde, c'est à ça que je fais allusion. Hein. Ça se répand autour de lui. Le deuxième soir, c'est moi qui ai passé, on a tous vécu dans cette louange, un peu comme des jeunes, avec une joie, et c'était un camp extraordinaire. Quand on est revenu, ces quatre jeunes, en fait, c'était Étienne, mon frère, et puis moi, garçon, et puis c'était Christiane Goba, d'Anneville, et puis c'était Angelina Cirulli, une Italienne, qui est maintenant de nouveau en Italie. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, hey, on fait un groupe de jeunes, nous. On est quatre, on fait un groupe de jeunes. On a fait un groupe de jeunes et on a dit, mais quel nom on donne? On va les appeler les J'y crois. Il y a aussi une grande histoire pour ce mot J'y crois, mais bref, J'y crois. Et très rapidement, on s'est mis en contact avec le groupe de jeunes de l'église baptiste. Tout de suite, on a quasiment fusionné, on a fait une réunion ensemble. On s'est appelé J'y crois, toute l'équipe. On s'est appelé J'y crois. Par la suite, donc, il y a eu, sur les années, il y a des centaines de jeunes qui ont passé dans ce groupe. Moi, j'ai reconnu aussi Ruth, hein, d'ailleurs. Après 3 ans, on est sorti parce qu'on était trop vieux. À 20 ans, on était trop vieux pour ce groupe de jeunes. Voilà. Mais il a continué. Il a continué. Et puis, il y a aussi les enfants des écluses qui sont venus. Et ça a été fantastique. Une caractéristique. Alors maintenant, attention. Ici, c'était bien. Mais on réalise partout en Europe. Aux États-Unis, ce qu'on a vécu là, tout seul, à la montagne, c'était pas que nous, c'était à beaucoup d'endroits. Et une caractéristique de ce réveil, appelons-la comme ça, c'était que c'était pas une église, c'était pas un style, c'était partout. L'église protestante, l'église catholique, vraiment, c'est partout. Et je suis tombé aussi cette semaine, quelqu'un m'a, appelons, disons ça par hasard, montré une vidéo de la télévision suisse romande qu'ils ont tournée à Tramelan. En 1970, et puis ils vont là, il y a un groupe de jeunes, j'allais dire ils cassent rien, dans le sens qu'ils sont une vingtaine, mais on voit une joie sur leur visage, ils ont une joie. Puis le journaliste, dans ce petit groupe, il tend le micro, puis il dit, tu viens de quelle église? Ah, le plein évangile, ok, et toi? Ah, ben, église protestante, ok, et toi? Assemblée missionnaire. Et toi? Église de réveil. Oui, l'église de réveil, la fille berceau, elle est là, l'église de réveil, et etc. Et on se rend compte que c'est un mouvement qui n'est pas dans une église ou dans une autre, qui est partout. Et c'est à ces époques-là, moi je pense, ou peut-être avant, je ne sais pas, mais pasteur Maurice Ray, ou peut-être ça avant, le pasteur Jean-Pierre Besse, il faut écouter ces histoires, elles sont, ah, voilà. Écoutez, on n'est pas là pour faire de la nostalgie, pour etc., hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, Jésus, il a dit une fois, si un enfant, il demande du pain à son père, il ne va pas lui donner des cailloux. Et il a précisé dans un des évangiles, et si vous demandez l'esprit, il va vous donner l'esprit. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on peut prier, demander. Vous savez, la Pentecôte, c'est la fête, hein, de l'Esprit qui est venu sur l'Église. Elle a une particularité, la fête, parce qu'elle est en lien aussi avec des fêtes dans la Bible. J'ai un blanc maintenant pour savoir Pentecôte, à quoi ça correspond. Je crois que ce n'est pas la fête des moissons, c'est la fête de... je ne sais plus. Des moissons peut-être quand même, hein. Et puis, il y a aussi Pâques, qui est très connue, la fête des moissons, qui est, voilà. Mais il y a une particularité dans la Bible, c'est que les fêtes principales, elles ont des dates précises. Pâques, c'est le 15 de Nissan, c'est le premier mois lunaire, alors ce n'est pas dans nos calendriers, hein, mais c'est toujours le 15 de Nissan. Et puis, il y a d'autres fêtes, tabernacle, c'est là. Pentecôte, oui, c'est aussi une date précise, mais on ne donne pas la date. On dit c'est 50 jours après Pâques. La Bible ne dit pas c'est telle date. C'est 50 jours après Pâques, et on compte les jours. Et j'ai entendu une fois une réflexion, et ça m'a parlé, qui disait que pour cette fête, ce n'est pas tellement la fête elle-même quand elle se déroule, mais c'est l'attente, c'est la préparation, on s'y prépare. Pour les Juifs, c'est la réception, ils en ont fait la réception de la parole, de la Torah. Pour nous, nous pensons à l'esprit. Et je dirais, mais ça m'a parlé parce qu'en me disant, mais nous, ça veut dire qu'il faut aussi attendre. Et Jésus, qui a été 40 jours après la Pâque avec les disciples, après il leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Et Jésus, ensuite, est parti et ils ont prié pendant 10 jours, 40 plus 10, 50, la Pentecôte. Voilà, le vent souffle où il veut, comme il veut. C'est quand même pas nous qui pouvons le faire. Mais nous pouvons demander humblement, Seigneur, encore une fois, de ton esprit, comme tu veux. Ça peut être autrement dans les formes. Bon, j'arrête, mais il y a aussi un verset que j'ai à cœur. Je le lis quand même. Je le lis quand même, parce que il ne faut non plus pas se tromper. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi l'esprit? Pour avoir une bonne ambiance. Oui, c'est clair ça. Mais c'est pour réaliser l'amour de Dieu, mais c'est aussi pour être comme Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles. Mais on doit lui ressembler. Il faut qu'on ait son caractère. On ne peut pas être autrement. Alors, on sait bien dans la pratique. Il ne faut pas nous culpabiliser. On se connaît, je me connais trop. Mais on peut quand même avoir envie de lui ressembler. Et bien, c'est ça l'esprit. Parce que ça, c'est aussi une grande question. La Bible, Jésus, il nous dit, il nous enseigne ceci, cela. Mais comment le faire? Par l'esprit. Voilà. C'est bon, j'arrête, je crois. Merci.